Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Ce sont des héros qui émergent pour nourrir les récits sanglants, les attaques terroristes ou les catastrophes naturelles. Ils incarnent des valeurs positives, de solidarité, de courage, de bravoure. Ils nous aident à retrouver un peu d'humanité au cœur de la tragédie aveugle. Ce sont parfois des figures sacrificielles, comme le gendarme Arnaud Beltrame, qui échange sa place avec celle d'un otage lors des attentats de Trèbes en 2018 et finit égorgé. Ou des héros happy end, comme les trois Américains qui déjouent l'attaque d'un djihadiste dans un Thalys entre Amsterdam et Paris. Généralement, s'ils sont blancs, ils reçoivent un hommage national ou la Légion d'honneur. S'ils sont noirs et sans papier, comme Lassana Batili, le héros de l'hypercacher qui a aidé les forces de police à se repérer, le traitement est parfois moins généreux. Il arrive aussi qu'ils retombent de leur piédestal aussi vite qu'ils y sont montés, comme le jeune homme intervenu lors de la tuerie d'Annecy en 2023 pour éloigner le terroriste. Surnommé l'homme au sac à dos et porté au nu, la presse découvre rapidement son passé trouble et son existence peu héroïque. Il repart alors aux oubliettes. Les deux hommes qui racontent aujourd'hui leur bravoure appartiennent plutôt à la catégorie modeste, discrète et n'ont pas reçu de Légion d'honneur ni de backlash. Mais ce sont des personnes admirables qu'a rencontré Anna Benjamin.
Je m'appelle Mustapha Salan, j'ai 53 ans, j'habite toujours à Strasbourg depuis 43 ans. Je suis marocain et je suis la quatrième génération en Alsace. Ben moi j'ai plusieurs métiers si vous voulez. J'étais physionomiste et chef de la sécurité dans une société privée. Je suis devenu chauffeur de taxi en 2009. Pour moi, c'est un des plus beaux métiers du monde. Un, on me paye pour rouler. De deux, on a la liberté de s'arrêter, de commencer quand on veut. Et surtout, ce contact avec les gens. Moi, j'aime le contact avec les gens. On peut rencontrer d'un simple client, de rencontrer des hommes politiques, des chefs d'État, des sportifs, des acteurs. Et puis, la journée du 11 décembre 2018, il est 18h à peu près, j'arrive au centre-ville pour récupérer mon taxi, étant donné on est à deux à travailler sur le taxi, mon collègue de journée, moi je suis de nuit. Je reste stationné un petit 20 minutes à peu près, et à 19h44, il y a 12 parlementaires qui sortent, donc j'en prends 4 dans mon véhicule, on démarre. On prend la direction de la Petite France afin de les déposer pour dîner. Il est exactement 19h58. Je fais une manœuvre pour reculer, pour repartir tout de suite. Les trois parlementaires à l'arrière, ils descendent, ils laissent la porte ouverte. Et je dis, bon, zut, la porte arrière, elle reste ouverte. Et à ce moment-là, il y a un type qui sort derrière une camionnette. Et je le suis d'un regard. Ça va très très vite. Il vient, il s'installe dans la voiture. Il ferme la porte. Et il me dit, dépêche-toi de rouler, de m'emmener à Neudorf. C'est un quartier qui est à proximité de Strasbourg. Lui, il me tutoie, il transpire, il n'est pas bien. Il a une masse qui est en dessous de sa veste. J'en déduis qu'il venait sans doute de piquer un sac ou voler quelque chose, un objet quelque part dans un magasin. Il prétexte que sa mère, elle est malade et qu'il voulait que je l'emmène voir sa mère à ce moment-là, qui habitait à Neudorf. Et donc on prend l'itinéraire, que c'est lui qui décide l'itinéraire, hein, donc il ne veut pas me donner sa destination, ni son adresse bien précise. Et moi je me pose toutes les questions possibles, je me dis mais qu'est-ce qu'il a ce type-là, pourquoi il transpire, il fait froid. lui dis, écoute, tu peux tout me dire, mon chien s'appelle chauffeur de taxi, voilà, je vois que t'es pas bien, tu me dis que ta mère elle est malade, je comprends pas. Et à ce moment-là, donc il crie encore une fois de plus, j'ai pas à te dire ce que j'ai, je te dis de rouler, tu roules. Donc on continue, on fait à peu près 200 mètres, et là il me dit, tu sais pas ce que je viens de faire, je dis... Non, dis-moi. Il me dit, je viens de faire un attentat à Strasbourg. Je viens de tuer 10 personnes. J'ai tiré sur des militaires. Je crois que j'en ai tué et blessé des militaires. Je suis blessé. On y croit et on n'y croit pas. Dans tous les différents métiers que je travaille, que ce soit dans la sécurité ou que ce soit dans le taxi pendant pratiquement 10 ans au moment des faits, des farfelus, j'en ai des comme ça. À ce moment-là, il me ramène sa main gauche sur l'accoudoir central où je vois qu'il y a beaucoup de sang. Il me met beaucoup de sang sur moi et à ce moment-là, il me met l'arme sous mes côtes et il me dit « Tu fais le malin, je t'allume ». Il me dit « À partir de cet instant-là, c'est fini pour toi, tu vas rester avec moi. Toi, ta voiture et ton téléphone, tu vas rester avec moi. Ce soir, on va aller mourir ensemble ». Je suis pris en otage et je suis pris au piège. Je pense bien sûr d'abord à ma famille. J'ai 5 enfants, donc j'ai un plus grand. Mon plus grand fils, il est policier. J'ai une autre fille qui est footballeuse. J'ai un fils aussi qui est footballeur et étudiant. Et j'ai un dernier garçon qui est encore étudiant. Mais il y a une chose que je me suis mis fixée tout de suite dans la tête, c'est hors de question de mourir de cette manière-là. De rester assis sans réagir. Et je suis un ancien karatéka, je suis ceinture noire. Je vais tout tenter pour sauver ma vie et sauver la vie des autres. J'essaie, si vous voulez, de se mettre à sa hauteur à lui et de ne pas le contrarier par rapport à ce qu'il venait de revendiquer par rapport à l'attentat. Lui, il pointe clairement les mécréants, qu'il faudrait les éliminer et il faudrait tous les éliminer. Et là-dessus, si vous voulez, il pose aussi des questions sur ma religion. Est-ce que je pratique, moi, la religion musulmane ? Alors là, il est mal tombé, parce que la religion musulmane, je sais de quoi je parle. Étant donné baigné dans l'amour de l'islam, dans le partage, dans le vivre ensemble, je sais de quoi je parle. Et l'islam ne dit pas qu'il faut aller tuer au nom d'une religion. C'est pas vrai. Lui, bien sûr, il pose des questions. Si je pratique, je fais mes prières. Si je fais, bien sûr, aussi mon ramadan. Bien sûr que là-dessus, je réponds. Et il me pose la question si je suis arabe. Je lui dis oui, je lui réponds en arabe. J'essaie de déclencher une conversation en arabe. Ça, je sais parler l'arabe. Je vois qu'il a des difficultés à en parler avec l'arabe. Il parle très, 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 très mal. Donc, c'est le français qui prend le dessus. Pendant que lui parle, il parle beaucoup, il s'exprime sur ce qu'il vient de faire, il me raconte une partie de sa vie, etc. Moi, je dois réfléchir. Je l'écoute, mais je ne récupère que les informations qui m'intéressent. Parce que je me suis dit, si la police arrive, elle ne va pas faire distinction entre le bon et le mauvais. Lui, il vient de commettre un attentat et le taxi, il l'attend sur une place, plus qu'à monter dedans. Et repartir. Là, on est, ça faisait à peu près déjà pratiquement 12 minutes que je suis avec lui dans la voiture. Il faut savoir, ce soir, il y a une armada de feux rouges qui sont tous rouges. C'est là la faute, pas de chance. On est à 900 mètres du commissariat et donc il décide d'y aller au commissariat. J'ai compris que son objectif, c'est d'y aller tuer des policiers ou de s'attaquer au commissariat. Et là, on est à 900 mètres du commissariat, on est arrêté à un feu rouge, et je lui dis, qu'est-ce que je fais? Je continue toujours droit, il me dit, non, tu prendras à gauche, j'ai mal, il faut que tu me soignes. Et je comprends très vite qu'il a un point faible, c'est qu'il a mal, et pour que je puisse le soigner, il faut que je le descende de la voiture, parce que j'ai tout dans le coffre. Et je comprends très très vite que je peux exploiter cette faille, je vais tenter ou de le neutraliser, ou bien de m'échapper et de partir en courant ou bien avec la voiture. Et là, il appuie avec son pistolet sur les côtes. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, non, t'inquiète pas. Là, je vais juste me garer et tu pourras descendre. Je pourrai te soigner derrière. Là, il veut savoir absolument si je vais aller voir la police. Et c'est une chose que je lui répète à maintes reprises que j'étais anti-policier, que je n'irai pas voir la police. C'est lui qui détient une arme, c'est lui qui a une masse en dessous de sa veste. Je vais dans ce sens à lui, l'interpeller sur l'affectif, parce qu'en disant, bon, moi je suis un père de famille, ça ne sert à rien de me tuer, voilà, je suis un simple chauffeur de taxi, mais ce que tu as fait, c'est entre toi et Dieu, je n'ai pas interféré là-dedans. Et là, il me dit, descends de la voiture, et ne fais pas le malin. Je dis, non, c'est bon, d'accord. Donc il me pointe son arme vers moi, il ferme la porte. Moi, je descends, je prends une bouteille d'eau avec moi dans la main, je laisse la porte ouverte et la voiture en marche. Et on arrive au niveau du coffre et il me met l'arme sous le ventre. Et il me dit, tu fais le malin, je t'allume. Je dis, non. Alors, moi, je vais te donner de quoi te soigner et tu pourras faire ce que tu veux après. Donc, je sors un paquet de mouchoirs que je lui mets sur le bras qui est blessé. Je lui mets la bouteille d'eau que j'avais en main sur le paquet de mouchoirs. Là, il y a un moment d'inattention. Lui, il baisse son arme pour pouvoir choper la bouteille d'eau et prendre les mouchoirs. Je recule tout doucement. Je monte dans la voiture. J'accélère et je fais 150 mètres. Et je regarde derrière moi. Je vois qu'il est en train de boire, qu'il est en train d'ouvrir ses paquets de mouchoirs. Et là, je suis à moins d'une minute du commissariat. J'accélère et je vais direction le commissariat tout en grillant 4 feux rouges. J'arrive, le rideau il est baissé, je toque à plusieurs reprises. Donc je suis mis en joue par deux policiers, ils me disent ce que je veux. Et je leur explique que je suis chauffeur de taxi à Strasbourg, que je viens d'être pris par quelqu'un avec sous-arme et qui, soi-disant, il vient de faire un attentat. Donc ils me font rentrer rapidement. J'ai donné tous les éléments à ce moment-là en disant de quelle taille il était, comment il était habillé, comment il était armé, qu'est-ce qu'il avait sur lui, etc. Et donc à ce moment-là, ils me mettent dans un bureau sécurisé. Je suis avec la police judiciaire. Malgré que je suis le témoin clé dans l'affaire de l'attentat, malgré que je suis, si vous voulez, un partenaire de taille à ce moment-là, mais je reste quand même soupçonné parce que le taxi, qu'est-ce qu'il fait là à ce moment-là? Ils ont besoin d'affiner leur enquête pour voir s'il n'y a pas une complicité. Et donc, je suis interrogé jusqu'à 1h30 du matin. Après, je descends récupérer mon véhicule avec les policiers et je vais voir la police scientifique dans le garage qui est en dessous du commissariat. Et là, je finis, il est 4h30 passé. Et là, on me dit, monsieur, merci, au revoir. Et je repars dans la nature. Le taxi, il est plein de sang. Donc, c'est moi qui ai nettoyé le taxi à ce moment-là, avec du Perrier, de l'Evian et des serviettes. Et voilà, j'en avais plein de sang sur mes mains, sur mes chemises, et ma chemise qui était blanche et était toute rouge, sur les avant-bras, sur ma veste. Moi, je rentre, il est 5h du matin, ma famille est réveillée, elle est en pleurs. Ils sont pas bien, ils sont pas rassurés, ils savaient pas si j'étais mort ou vivant à ce moment-là. Et puis, on va discuter, je vais les rassurer. Mais je suis très inquiet, pour moi, pour ma famille, sur le plan de sécurité, étant donné que le terroriste, il est toujours en cavale. Le terroriste, on ne sait pas si il va pas s'attaquer au chauffeur de taxi parce qu'il a dénoncé. Même le procureur de la République, à ce moment-là, il m'a pas épargné. Il m'a nommé 7 fois. Qui dit dans sa conférence de presse, grâce au chauffeur de taxi, on sait qu'il est blessé. Grâce au chauffeur de taxi, on sait qu'il a une arme. Grâce au chauffeur de taxi, il a ci, ça, 7 fois. Donc, à un moment ou à un autre, le terroriste, étant donné qu'il avait disparu pendant 48 heures, on ne dit pas que peut-être qu'il n'était pas en cavale, mais sans doute devant une télé, en train de regarder toutes ces informations-là. Le conseil des policiers, on me dit que je dois me mettre au vert. Donc, sous leur conseil, on décide de partir de chez nous avec ma famille et on part chez ma belle-sœur où on va être cloîtré chez elle. Je vais être figé devant la télé pendant 3 jours. Et puis, le 13 au soir, il est pas loin du commissariat. Il est à 900 mètres du commissariat à peu près. Il se promène dans ce quartier-là, il fait semblant d'ouvrir une porte, il aperçoit les policiers arriver, il voulait rentrer dans un immeuble, donc les policiers l'interpellent à ce moment-là avec leur mégaphone en lui disant de se retourner afin qu'ils le voient, et au moment où ils se retournent, il leur fait feu sur eux, et derrière ils répliquent, les policiers répliquent, ils le neutralisent immédiatement, donc les trois policiers tirent sur lui, et il est neutralisé à ce moment-là. Donc, lors du 11 décembre 2018, il a tué 5 personnes. Il en a blessé 11 autres. Donc, il y a 11 blessés graves et 5 morts ce soir-là. Et moi, je suis la 17e personne à la fin de ce circuit mortifère. C'était ma dernière course ce soir-là. Je n'y retournerai plus jamais dans le taxi. Ça, c'est sûr et certain. L'attentat, vous ne pouvez pas l'oublier par les cauchemars qui sont récurrents, que je fais tout le temps. Il est souvent dans mes cauchemars où je converse avec lui. Et je rentre ce qu'on appelle dans un stress post-traumatique aigu. Et ça, c'est quelque chose qui va vous bouffer de l'intérieur parce que vous allez créer une hypervigilance. Il y a de l'angoisse, il y a de l'inquiétude, il y a de la peur, il y a de la vengeance. Il y a plein de choses qui vous passent par la tête. Donc il y a un avant et un après attentat, mais aussi ce terroriste, il fait partie de ma vie aujourd'hui, il fait partie de tout ce que j'entreprends. Aujourd'hui, c'est quelqu'un que je ne nomme jamais, j'ai jamais nommé, je ne nomme jamais les terroristes, si vous voulez, par leur nom et leur prénom. Pour moi, c'est des assassins, c'est des tueurs, c'est des criminels, c'est le diable en personne. Pourquoi les nommer ?
Je me prénomme Vincent, je suis artisan métallier. J'habite sur les Halles, à Paris. J'ai été pendant une dizaine d'années employé par la RATP, au sein du GIPR, c'est un groupe d'intervention et de sécurisation des réseaux. Ce métier d'agent de sécurité à la RATP, ça consistait à sécuriser les réseaux, le métro, le RER, et on était en tenue. C'était des équipes souvent de 12 qui circulaient sur les réseaux métro, RER. Le 16 janvier 1991, ce jour-là, les États-Unis déclarent entrer en guerre contre l'Irak dans le cadre de la guerre du Golfe, dans le cadre de l'invasion du Koweït par l'Irak. Et ce même jour, je termine mon service à 18h. Je m'apprête à rentrer chez moi. Je suis en civil, j'ai mon sac de sport avec moi. Je suis pas bien, j'ai mal au ventre, j'ai envie de rentrer et d'aller me coucher. Et pour ça, je prends le métro sur la ligne 1 à Bastille. J'attends le métro sur ce quai de station. La rame arrive, je suis en tête de rame, je monte dans cette rame, je constate que la rame est pleine, que toutes les places sont occupées, sauf deux strapontins qui sont situés juste derrière la cabine du conducteur. Donc je m'avance vers l'une de ces deux places, je m'assois et je constate qu'il y a deux personnes qui sont debout, adossé à la cabine du conducteur, deux hommes, alors que le reste des voyageurs sont assis. Et au moment où les portes se ferment, une petite dame qui se trouve sur les strapontins de l'autre côté de l'allée, sur ma droite, me regarde et me dit « il faudrait faire quelque chose ». La rame démarre et là, je réalise que une des deux personnes qui me font face, qui sont debout, adossées à la cabine du conducteur, a un couteau de chasse à la main. Le premier, avec son couteau de chasse, est plutôt trapu, plus petit que moi. Et le deuxième, plus grand que moi, plus d'un mètre 90, a les deux mains enfoncées dans les poches de sa parka, à hauteur de poitrine. Voilà. Et donc, au moment où la rame démarre, le porteur du couteau de chasse lance à la cantonade « S'il y a un arabe qu'il se lève, je le tue. » Donc, je me lève, je m'adresse au porteur de couteau et je lui dis « S'il vous plaît, pourriez ranger votre couteau ?» Personne ne bouge, tout le monde est assis. Mais je comprends aussi qu'il y a un effet de sidération. C'est ce que effectivement on appelle l'effet spectateur. On est nombreux et face à une situation qui nous déstabilise, il y a de la peur, une peur physique, mais il y a aussi la peur d'être ridicule parfois. Et puis on se retranche derrière le groupe pour se dire ben pourquoi moi. Donc je regarde la petite dame et je me rassois. Je me rassois parce que à ce moment-là, je me dis si ça doit partir, là, la situation, le cadre, je ne sais pas gérer là. Je ne le sens pas. Donc je me rassois et une fois rassis, le gars qui a le couteau en main, son collègue dans le dos, là, les deux mains enfoncées dans sa parka, le gars au couteau me regarde et me dit « T'es pas fier d'être français ? Tu descends à la prochaine, je te fais ton affaire. » Bon, ben, je reste assis. On arrive à la station Saint-Paul. Au moment où la rame s'arrête, je me lève. Les deux individus se mettent à côté de moi et on sort. Personne ne bouge, personne ne parle dans la rame. Je m'avance sur le quai, les deux individus me suivent. Je leur fais face, je marche en reculant. L'homme au couteau de chasse arme son bras. Il saisit mon poignet droit avec sa main gauche. Et là, ça va très vite. À cette époque-là, je sortais souvent de service avec une bombe lacrymogène à la ceinture. Au moment où l'homme arme son cou pour me frapper avec son poignard, je saisis ma bombe, je le gaze. Il est complètement déstabilisé. Je saisis son bras, je l'amène au sol. On chute contre les premières marches d'escalier qui mènent vers l'extérieur. Et son comparse disparaît de mon champ de vision. Et c'est là où la petite dame a eu un rôle essentiel. C'est qu'elle s'est glissée jusqu'à la cabine du conducteur. Elle est allée voir le conducteur. Elle lui dit « Il se passe quelque chose ». Et le conducteur a arrêté la rame, il n'a pas redémarré, il a alerté les secours. Et le comparse, il a paniqué et il s'est mis à courir. Et il a couru en direction du fond du quai. Donc à Saint-Paul, sur ce quai-là, il n'y a qu'une seule sortie, elle est en tête de rame. Donc il est arrivé en fond de quai sans pouvoir s'échapper. Et il est resté là-bas. L'agresseur au couteau a été maîtrisé, j'ai récupéré son arme, la police est arrivée, là aussi la petite dame a dû intervenir parce que les policiers m'ont vu avec un couteau et ils sont partis pour m'interpeller. Le comparse qui était parti en fond de quai a été interpellé aussi. On a trouvé sur lui un coup de poing américain. Et suite à ça, il y a eu un procès en correctionnel. Quelques mois plus tard, j'ai témoigné. J'ai vu les deux agresseurs qui étaient à ce moment-là présentés tout à fait différemment. Apparemment, ces deux gars-là étaient vigiles au sein d'une entreprise. Leur haine de l'arabe, ils ont eu envie de l'exprimer ce jour-là. Ils étaient voilà, deux gars en souffrance qui avaient trouvé une guerre à laquelle ils pensaient pouvoir associer toute leur frustration. L'homme au couteau a pris 6 mois ferme. Celui qui avait les mains dans les poches a pris 6 mois avec sursis. Voilà. Pour moi, physiquement, ça n'a pas eu de conséquences. J'ai eu par la suite, en me remémorant cette scène, des petites crises de larmes ou de liées à un stress a posteriori. Mais le fait d'avoir agi m'a libéré de sentiments, de frustration qui auraient pu m'envahir si j'avais été témoin et passif. J'ai agi parce que il y a une forme de conditionnement. À l'époque, j'étais agent au sein du GIPR. J'avais une pratique martiale, j'avais fait du karaté. Et puis surtout, je dirais peut-être plus que ça, j'avais une petite dame en moi.
C'était Héros d'un jour, un reportage d'Anna Benjamin réalisé par Somaya Dabesh. Merci à Mostafa Salane et à Vincent, l'attaché de production des Pieds sur Terre. C'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Nour Mohamedi.
Again to death.